Bonjour, je suis Olivier. Bienvenue dans le podcast Nin Nartré. Aujourd'hui, je vais résumer et critiquer le livre. La dette sociale de la France 1974-2024 est un essai économique et historique dans lequel Nicolas Dufourcq, directeur général de Bpifrance, examine la part sociale de la dette publique française. Le livre part donne une tose nette, une fraction majeure de la dette accumulée depuis les années 1970 proviendrait du financement à crédit des prestations sociales. Notamment retraite, santé, chômage, minima sociaux et transferts. L'ouvrage ne se limite pas à un diagnostic budgétaire. Il retrace 50 ans de décisions publiques. De réformes incomplètes, de crises économiques et de compromis politiques qui ont progressivement éloigné la sphère sociale du principe d'équilibre financier. Dufourcq combine analyse comptable, récits institutionnels et nombreux témoignages d'acteurs publics pour comprendre comment un modèle conçu pour réduire la peur sociale a pu devenir, selon lui. Un facteur d'inquiétude intergénérationnelle. Son objectif est de rendre visible un débat souvent dilué dans la notion générale de dette publique. Je vais vous présenter les points clés de ce livre. Premièrement, la dette sociale présentée comme financement courant plutôt que comme investissement. Le point central du livre est la distinction entre une dette contractée pour préparer l'avenir et une dette utilisée pour payer des dépenses courantes. Dufourcq soutient qu'une grande partie de la dette publique française ne finance ni infrastructures productives, ni défense, ni recherche, mais des prestations sociales versées chaque mois. Cette qualification de crédit à la consommation est volontairement provocatrice, car elle déplace le débat. La dette cesse d'être une abstraction macroéconomique et devient le résultat d'un déséquilibre récurrent entre droits sociaux accordés et recettes disponibles. Le raisonnement est important parce qu'il oblige à interroger la nature de la dépense publique. Une prestation sociale peut être légitime, protectrice et politiquement nécessaire, tout en posant un problème si elle est durablement financée par emprunt. Le livre ne nie donc pas la valeur du modèle social français, mais demande si son financement respecte encore le contrat implicite entre générations. Cette approche explique aussi pourquoi Dufourcq insiste sur les retraites et la santé, ce sont des postes massifs, structurels et sensibles au vieillissement démographique. En les reliant à la dette, il cherche à montrer que la soutenabilité du modèle dépend moins de grands principes que de flux annuels très concrets. Deuxièmement, 50 ans de décisions publiques ont affaibli la règle de l'équilibre social. La période 1974-2024 sert de cadre historique à une enquête sur la dérive progressive des comptes sociaux. Dufourcq situe le basculement après les Trente Glorieuses. Lorsque ralentissement de la croissance, montée du chômage, désindustrialisation et vieillissement commencent à peser sur les recettes et les dépenses. Le livre montre que les gouvernements successifs ont souvent étendu ou préservé des droits sans créer des ressources équivalentes ou sans réduire durablement d'autres dépenses. Les réformes ont existé, notamment sur les prélèvements sociaux, les retraites ou les allègements de charges, mais elles sont décrites comme tardives, partielles ou annulées par les alternances et les crises. Cette histoire est aussi politique, chacun a ses angles morts, entre tentation de financer par recettes nouvelles et difficultés à limiter la progression des prestations. Les crises de 2008 de Covid aggrave le problème car elle justifie des dépenses exceptionnelles qui ne sont pas toujours suivies d'un retour à l'équilibre. Le livre insiste ainsi sur une mécanique d'auto-accumulation, aucun choix isolé ne suffit à expliquer la dette. Mais la répétition de compromis non-finance finit par transformer une protection annuelle en passif durable. Troisièmement, l'opacité comptable rend invisible la responsabilité financière du social, un apport important de l'ouvrage réside dans sa critique de la lisibilité des comptes publics. Dufourcq affirme que la dette sociale reste mal comprise parce que les budgets de l'État, de la sécurité sociale, des collectivités et de divers organismes sont imbriqués par des transferts, compensations et affectations de recettes. Cette complexité permet à chaque acteur de déplacer la responsabilité du déficit ou de traiter la dette sociale comme une composante indistincte de la dette publique. Le livre défend donc l'idée d'un budget consolidé du social, capable de rendre visibles les dépenses, les recettes, les déficits et les décisions qui les provoquent. La proposition, elle n'est pas seulement technique. Elle a une portée démocratique, car un débat public sérieux suppose que les citoyens sachent ce qui est financé par cotisation, par impôt ou par emprunt. Sans consolidation, il devient possible de célébrer des droits nouveaux tout en masquant leur co-futur. Cette dimension comptable explique le ton parfois austère de l'ouvrage. Mais aussi son intérêt, il traite la dette non comme une fatalité déontologique, mais comme un résultat mesurable de circuits financiers que la présentation budgétaire ordinaire rend difficile à suivre. Quatrièmement, la dette sociale modifie le pacte entre jeunes, actifs et retraités. Dufourcq donne à la dette sociale une dimension intergénérationnelle. Les retraités peuvent percevoir leurs pensions et leurs soins comme le résultat de cotisations passées, tandis que les actifs ont le sentiment de contribuer fortement sans garantie de bénéficier du même niveau de protection. Les jeunes, eux, voient souvent la dette comme une donnée lointaine alors qu'ils en supporteront probablement une partie sous forme de « un peu ». de croissance plus faible ou de services publics contraints. Le livre montre ainsi que la dette, elle n'est pas seulement un stock financier, elle influence la confiance collective. Si chacun pense que le système protège les autres plus que lui, même, la solidarité perd en légitimité. Dufourcq relie aussi cette question à la capacité future du pays à investir. Des charges de intérêts et des dépenses sociales finances à crédit peuvent réduire les marges pour l'alcool, la recherche, la transition énergétique, la réindustrialisation ou la défense. Cette analyse explique pourquoi le livre parle de souveraineté budgétaire. La dette sociale, elle n'est pas présentée comme un problème moral isolé, mais comme une contrainte qui peut limiter les choix économiques et stratégiques dont une société vieillissante. En dernier lieu, les pistes de réforme visent la soutenabilité, mais soulèvent une forte question politique. La conclusion programmatique du livre avance un objectif des économies annuelles très élevé, souvent présenté autour de 1 800 milliards d'euros, et explore plusieurs pistes recul de l'âge effectif de départ à la retraite, durée de cotisation accrue, indexation plus stricte des pensions. Meilleure maîtrise des dépenses de santé, hausse du taux d'emploi, simplification du travail, apprentissage, allègement ciblé de charges et clarification des responsabilités budgétaires. La logique de Dufourcq est que préserver le modèle social suppose de le rendre finançable, donc doit accepter certaines limites à la demande sociale. Cette partie est aussi la plus discutique, car elle fait passer le livre du diagnostic à des arbitrages distributifs. Réduire des prestations ou augmenter certains restes à charge peut peser différemment selon elle, le revenu, la santé et la position sur le marché du travail. Le livre reconnaît la nécessité d'où un partage de l'effort. Mais ces propositions restent politiquement difficiles dans un pays où les retraites et la sécurité sociale structurent fortement le contrat social. Son intérêt est précisément de rendre ce conflit explicite. Il ne suffit pas de n'affirmer la valeur de la protection sociale, il faut décider qui la finance. Si, dès, les, fin. Les 7 ou 20 ans se trop lents à 20, lesquels niveaux et avec quelles limites? En conclusion, ce livre s'adresse de abord aux lecteurs intéressés par les finances publiques, la protection sociale. Elle économie politique française et les choix de long terme de l'État. Il sera particulièrement utile aux responsables publics, journalistes économiques, étudiants en politique sociale, cadres administratifs et citoyens qui souhaitent comprendre pourquoi le débat sur la dette ne peut pas être réduit aux dépenses de fonctionnement de l'État. Son bénéfice intellectuel principal est de relier trois niveaux souvent séparés à l'histoire des décisions politiques. La structure comptable des finances sociales et les conséquences intergénérationnelles de l'endettement. Le lecteur en ressort avec une grille de lecture plus précise sur les retraites, la santé, les transferts sociaux et les marges de investissement national. L'ouvrage se distingue des essais budgétaires plus généraux par son angle spécifique. Il isole la dette sociale comme objet central et la raconte sur un demi-siècle, en s'appuyant sur des témoignages d'autres acteurs et sur une volonté de clarification comptable. Sa limite tient à son positionnement assumé, parfois normatif, qui rend certaines propositions contestables. Mais cette netteté fait aussi sa force, le livre oblige à discuter des ordres de grandeur réels et du financement concret du modèle social français. Si vous souhaitez soutenir Nicolas Dufourcq, vous pouvez acheter le livre via le lien Amazon que j'ai fourni dans la description du podcast. Après avoir lu le livre, faites-moi savoir ce que vous en pensez et partagez vos réflexions. À bientôt.